suis Agnès, professeure de yoga, biologiste et docteur en neurosciences, et je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast « Ta blessure, ta chance ». Que tu sois un sportif assidu qui a déjà connu la frustration des douleurs chroniques ou de la blessure, ou bien que tu débutes le sport et que tu t'interroges sur la prévention des douleurs, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'accompagne dans la gestion et la prévention des douleurs récurrentes et des blessures sportives grâce aux outils du yoga, des neurosciences et de la physiologie du sportif. Moi-même passionnée de sport, j'ai connu la frustration des blessures à répétition avant de découvrir les différents outils du yoga. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mes compétences et mon expérience pour aider les sportifs qui font face à des douleurs récurrentes ou à des blessures à s'épanouir dans leur activité sportive. Bonjour, je suis ravie de vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est une interview que je vous propose. Je reçois au micro du podcast Véronique Hyacinthe, naturopathe et masseuse à Toulon et pratiquante de yoga. Ce qui m'a donné envie de l'interviewer, c'est le fait qu'elle soit naturopathe et masseuse, mais surtout qu'elle propose des accompagnements pour rééquilibrer sa consommation de sucre. Le sucre, c'est la vie, mais le sucre blanc, c'est les caries et pas que. Dans cet épisode, le mot sucre désigne le sucre blanc, celui qu'on met dans son café, mais aussi celui qu'on trouve à gogo dans l'alimentation industrielle et ultra transformée. L'interview a été très riche, donc merci à Véronique, et c'est pourquoi j'ai décidé de le découper en 3 épisodes qui paraîtront non pas tous les 15 jours, mais exceptionnellement toutes les semaines. On attaque avec un premier épisode théorique pour apprendre à connaître Véronique, mais aussi un épisode où elle nous parle de naturopathie et de notre consommation de sucre, y compris des sucres cachés. Le deuxième épisode décortiquera les problèmes liés à la consommation de sucre et abordera de manière pratique des moyens de diminuer sa consommation. Et le troisième épisode sera 100% tips avec les secrets de Véronique pour une consommation équilibrée de sucre, y compris quand l'aspect émotionnel pointe le bout de son nez. Avant de vous laisser en compagnie de ma discussion avec Véronique, juste un petit rappel. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, je vous invite à le faire. Vous pouvez mettre sur pause l'épisode et retrouver le lien en commentaire afin de ne manquer aucun épisode, aucune interview, mais aussi de bénéficier d'articles exclusifs dans lesquels je vous parle de yoga, d'activité physique et de neurosciences. Et à présent, c'est parti pour la première partie de notre interview. Bonjour Véronique.
Bonjour Agnès.
Je suis très contente de te recevoir sur le podcast et je suis sûre, enfin je le sais même puisqu'on a un petit peu travaillé en amont ensemble, que cet épisode va être vraiment riche. Et même si j'ai déjà parlé de ton activité dans l'introduction, je voudrais que tu te présentes de la manière dont toi tu le souhaites, peut-être ton parcours, qui es-tu, ton activité, etc.
Certainement. Donc, je m'appelle Véronique Hyacinthe et je vis à Toulon. Je suis passionnée de nature et de randonnée et surtout de tout ce qui touche à la santé naturelle, c'est-à-dire celle qui prévient les problèmes plutôt que de les traiter. Et mon intérêt pour la santé naturelle s'est réveillé au cours de ma grossesse passée au Québec il y a déjà plus de 30 ans. À l'époque, la malbouffe était déjà omniprésente et côtoyait les pub omniprésente, elle aussi, pour des poudres protéinées à visée amincissante et même pour des eaux minérales à zéro calorie. Il faut oser. Il y avait aussi un nombre bien
plus important. Ah ouais, non mais là, j'avoue. Hein? C'est terrible, ça, les eaux minérales à zéro calorie, quoi.
Ah oui, mais ça n'existe pas en France. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, il faut le faire. Il faut le faire. Ils le faisaient, je ne sais pas s'ils le font encore, mais bon, tout est possible là-bas. Donc, mais il y avait aussi un nombre bien plus important de magasins bio qu'en France à l'époque. Il y avait, en France, on voyait des petites boutiques de la vie claire, sombre, mal achalandées. Mais là-bas, c'était déjà un peu comme en France aujourd'hui. Donc, on trouvait au Québec toute une palette de choix possibles d'alimentation, du pire au meilleur. Donc, étant enceinte, j'ai commencé à fréquenter ces magasins bio et à lire tout ce qui me tombait sous la main en matière d'alimentation, santé, bio, végétarienne, etc., pour préparer au mieux ma grossesse en matière d'alimentation, ou pour la vivre plutôt, puisque j'étais déjà enceinte. En parallèle, je souffrais à l'époque de rhinite allergique que je ne parvenais à stopper qu'en prenant régulièrement des antihistaminiques. J'avais fait la connaissance d'un naturopathe qui m'avait conseillé d'arrêter tous les produits laitiers, ainsi que ceux du contenant du gluten, comme les pains, les pâtes, etc. Et à mon grand étonnement, les résultats furent stupéfiants. Car après une dizaine de jours, je dois le dire, infernaux, passés à me moucher sans arrêt, parce qu'il m'avait recommandé d'arrêter tout antihistaminique en même temps que l'éviction des produits laitiers et ceux contenant du gluten, je me réveillais un matin, le nez dégagé et libéré de toute envie d'éternuer et besoin de me moucher sans arrêt.
Mais en plus, c'est vraiment d'actualité parce que à l'heure où on enregistre, on est fin février et en tout cas à Toulon, les pollens ont déjà commencé à faire leur danse de la joie. Hein. Là, ils
Exactement, exactement.
se...
J'ai plusieurs amis qui se plaignent, voilà, d'avoir le nez qui coule en permanence, de se moucher. Donc ça, c'est dû aux, oui, des allergies saisonnières dues au pollen. En ce qui me concerne, c'était pas vraiment. J'avais ça toute l'année, toute l'année, et voilà, je ne trouvais pas de solution particulière. Et donc ce fut vraiment une révélation et le début d'une nouvelle vie. Et surtout d'une nouvelle alimentation plus saine et plus attentive à la fois aux besoins de mon corps et de mon énergie. Donc, j'ai voulu en savoir plus et je me suis formée à la naturopathie après avoir passé quelques étés dans l'université d'été d'un naturopathe célèbre, en tout cas il y a 30 ans, mais aujourd'hui décédé, qui s'appelle André Pasbec. Donc, curieuse de nature, je ne me suis pas arrêtée à l'alimentation juste bio et saine. J'ai pratiqué quelques courants alimentaires comme le végétarisme, mais aussi le crudivorisme. Le crudivorisme, comme son nom l'indique, il ne consiste à manger que des aliments crus. Donc, pas uniquement, ça peut être du fromage, des oléagineux, donc pas uniquement des fruits et légumes, mais tout ce qui ne passe pas par la cuisson. Et puis ensuite, plus récemment, il y a quelques années, j'ai découvert l'Ayurveda et l'alimentation ayurvédique avec ses principes selon sa nature. Nature, soit Vata, Pitta, Kapha, donc c'est-à-dire la constitution de la personne qui diffère d'une personne à l'autre.
Ok, je rebondis juste sur le
Oui,
crudivorisme. C'est pas
oui.
trop difficile parce que alors moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Tu as pratiqué ça longtemps ou
En fait, j'ai pratiqué ça dans un cadre privilégié. C'était l'été, dans le sud de la France. Et on était dans une espèce
D'accord.
d'université, donc assez isolée du reste du monde. Donc, il n'y avait pas une boulangerie avec les croissants ou un magasin avec des glaces. Donc, il y avait juste ce qu'on nous servait.
D'accord,
Et
donc c'est quasiment une
c'était.
retraite crudivore quoi que tu as
Oui, en
fait.
fait, c'était des gens qui venaient pour une semaine de stage, soit pour découvrir une alimentation saine, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes une pathologie. Enfin, quand je dis pathologie, hein, c'est voilà, des problèmes digestifs, des problèmes de peau, surtout des problèmes chroniques, et qu'ils espéraient améliorer en découvrant voilà, les principes naturopathiques. Comme en Inde, on peut faire une cure ayurvédique avec plus ou moins les mêmes techniques, en rajoutant les massages. Mais donc pour purifier le corps, ça passe d'abord par une phase de purification et puis ensuite de régénération avec des plantes, des compléments, voilà, des espèces de mixtures à base de plantes. Et donc,
D'accord. Et si j'ai bien
pour
compris,
en
toi,
parler,
du coup,
oui.
tu t'es orienté ensuite plutôt vers cette alimentation justement ayurvédique.
Voilà, c'est ça. Mais pour rebondir à ta question là, du crudivorisme, j'ai fait ça en été. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire en été parce qu'on a chaud. Puisqu'effectivement,
Oui.
crudivore, c'est égal froid.
Ça dépend où, mais c'est vrai qu'en tout cas, chez nous, il fait chaud.
Voilà. Alors effectivement, il y a des petites astuces quand on a froid de mixer des légumes crus et de rajouter de l'eau chaude par-dessus. Ça fait une soupe chaude ou tiède, mais à base de légumes crus.
D'accord.
Voilà. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. Donc, c'est vrai que c'est phénoménal parce qu'au bout de 2 mois, on a vraiment un transit parfait, une belle peau. Enfin, tout est régénéré. Personnellement, je ne conseillerais pas de faire ça sur une longue durée. Et en hiver, les personnes qui ont des tendances fragiles, enfin, pas fragiles, mais qui ont une tendance à la frilosité ou à la nervosité, ça ne va pas arranger leur énergie. Voilà. Donc, c'est une
D'accord.
expérience qu'on peut tenter, mais essentiellement en été. Et en y allant
D'accord.
progressivement, parce que quand on n'est pas habitué à manger du cru, les intestins peuvent ne pas l'apprécier.
C'est ce que j'allais te dire. Voilà, il faut faire attention,
Oui.
j'imagine, aussi au niveau des intestins pour pas voilà, amener trop de fibres d'un coup. Et suivant les personnes, ça peut
Exactement.
être assez
Voilà,
mal accepté.
tout excès est néfaste. Il faut y aller en
Oui.
douceur. Et donc, en concernant, donc, oui, je parlais de l'alimentation ayurvédique. Donc, je voulais juste vous faire un petit rappel de ce que c'est l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui est indienne, donc dans le continent indien, et qui passe, c'est aussi une alimentation, enfin, je veux dire, une médecine traditionnelle, au même titre que la naturopathie ou que la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on retrouve les grands principes et les bases. Donc, qui sont l'alimentation, bien sûr, mais le soin par les plantes, par les massages, par le repos, par la relaxation, la respiration, et avec des techniques plus particulières que sont le yoga et les massages dans l'Ayurveda. Voilà.
Et
Et
dis-moi si je me trompe, mais je crois d'ailleurs que les médecins qui sont formés en médecine ayurvédique étudient plusieurs années, hein, au même titre que nous, nos médecins étudient pendant plusieurs années. Je crois que ce sont des études longues, hein.
alors moi, ce que j'ai compris, c'est que les médecins ayurvédiques, ils sont déjà médecins à la base. Ils font des études de
Oui,
médecine,
c'est
je dirais, classique, comme
classique,
n'importe
ouais.
quel médecin, et ont ensuite une option en Ayurveda. Alors de combien de temps, je ne sais pas exactement. C'est au moins une année, voire peut-être 3 ans, sûrement plus d'une année. Voilà. Et en fait, les médecins indiens, déjà les massages, c'est quelque chose de traditionnel. Dans la plupart des familles, on masse les bébés pratiquement dès leur naissance, régulièrement, tous les jours. Donc c'est quand même quelque chose qui est très imprégné dans la culture indienne. Alors peut-être que dans les grandes villes, ça se fait moins. Ça, bon, je m'avance un peu, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose d'assez naturel, de beaucoup plus naturel que pour nous la naturopathie, pour nous en France. Voilà. Et j'ai moi-même eu l'occasion de découvrir toutes ces pratiques ayurvédiques lors d'une cure ayurvédique que j'ai faite en Inde et de découvrir donc vraiment les bienfaits que procure un massage donné en conscience, à la fois sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Et là, je voudrais rajouter, voilà, préciser que bon, le massage, c'est quelque chose qui est pratiqué, bien sûr, en Occident, mais pas avec la même conscience qu'en Inde ou qu'en Orient en général. Parce que la vocation première du toucher, c'est de rassurer, et ça rassure à la fois le corps et l'esprit. Donc ça provoque une grande relaxation et qui, bien sûr, comment dire, contribue au bien-être général de la personne. Et,
Et d'ailleurs, ça a un effet sur le système nerveux.
complètement sur le système nerveux, parce que donc le toucher, comme un enfant qui est pris dans les bras de sa maman, il se sent calmé tout de suite. Ça relance la production d'ocytocine, qui sont les hormones du bien-être. Et donc voilà, ça apaise le système nerveux, tout à fait. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est le but premier du massage, donc d'apaiser. Et un petit mot aussi sur le yoga. Puisque j'ai découvert essentiellement le yoga là-bas. Lui, le yoga, il sollicite la conscience et la concentration de l'esprit par le souffle de la respiration, tout en mobilisant la force et la souplesse du corps. Et donc, on arrive aussi à un équilibre corps-esprit par la pratique du yoga. Donc, je ne dois pas t'expliquer ce que c'est le yoga, tu en sais
Non, ça, écoute. Non,
bien
mais
plus que moi.
j'aime beaucoup le mot que tu as prononcé, le mot équilibre, hein, c'est complètement ça. S'il y a un mot à retenir en yoga, c'est vraiment que aucun excès n'est bon, c'est vraiment cet équilibre qu'on essaye de trouver.
C'est ça. Et je dirais qu'on peut résumer ce que c'est qu'une bonne santé, une belle énergie pour avoir un cerveau tranquille et un corps tonique. Eh bien, c'est d'avoir une alimentation adaptée à ses besoins, de s'accorder des massages, je dirais un massage mensuel, c'est pas mal pour se faire du bien. Et puis, une pratique régulière, ça peut être du yoga, ça peut être autre chose, mais une pratique régulière qui mobilise le corps, à la fois dans la force et dans la souplesse. Voilà, c'est un beau programme de santé.
Tout à fait, je ne peux qu'aller dans ton sens. Non, non, ne faites pas de yoga. Non, non, tu as
Et c'est
raison.
bon à tout
L'alimentation,
âge.
massage.
Oui, à tout
Oui,
âge,
exactement. Et
vraiment.
je suis d'accord avec toi, à tout âge, on peut commencer jeune, on peut commencer plus tard.
Bien sûr.
C'est vraiment pas un problème, hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le yoga plus tard et c'est complètement OK et qui auront quand même les bénéfices.
Certainement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur en ce qui me concerne.
Ok, et du coup, toi, aujourd'hui, tu pratiques quel type de massage?
Alors moi, je pratique deux massages. Donc le massage qu'on dit Abhyanga, donc c'est le massage ayurvédique classique. C'est un massage à la fois un relaxant musculaire, c'est un massage complet du corps qui se fait avec de l'huile de sésame tiède. Donc il y a un but donc de relaxation profonde et aussi de relancer la circulation des énergies parce que les mouvements se font sur certains passages, un peu comme les méridiens dans les massages chinois. Et on parle en ayurvédique de points, des points marma. Donc, c'est des points particuliers qui vont être sollicités, un peu comme de voilà, des pressions sur certains points pour libérer certaines tensions. Et chaque point correspond à un organe particulier. Donc, ça, c'est le massage Abhyanga. Et je pratique aussi un autre massage de bien-être qui est le massage californien, qui peut être plus connu en France. Donc, c'est un massage, toujours un massage complet du corps, qui lui est vraiment très enveloppant, avec des gestes amples, un peu plus doux que le massage Abhyanga, mais ce n'est pas des effleurages, hein, c'est un vrai massage, et donc vraiment à une visée relaxante, apaisante. Voilà, c'est les deux massages que je
Et j'ai
pratique.
testé les deux
Oui,
et
c'est vrai.
personnellement j'ai beaucoup aimé les deux. Ouais, c'était vraiment vraiment super. Et
Merci Agnès.
je crois que tu donnes aussi des consultations hein, de naturopathie spécialisée dans les addictions au sucre. Ça, c'est super intéressant. Et
Oui.
sur la perte de poids, mais on va dire la perte de poids durable, pas juste la perte de poids avant l'été. Donc quelque chose vraiment axé santé et notamment autour du sucre. Hein,
C'est
il me
ça.
semble.
Oui, pour moi, la perte de
Ok.
poids s'inscrit dans une hygiène de vie quotidienne et sur le long terme. Donc, c'est oui, vraiment une hygiène de vie à faire, je dirais, dans les règles de l'art, pas vraiment, mais à faire en conscience et en sachant que tout est fonction d'équilibre et que c'est pas si s'affamer une journée ou 3 jours et ne va pas aider le corps. Au contraire, ça va le stresser. Et le but, c'est surtout pas de stresser le corps parce qu'il va se venger ensuite. Voilà. Donc,
Et
je
de toute
pourrais
façon, on va revenir notamment vers cette addiction au sucre plus tard dans l'interview. Et je voulais
Avec
rebondir
plaisir.
sur une deuxième question, une question de type portrait chinois que j'aime bien pour terminer les présentations. Si tu étais une posture de yoga, puisque tu pratiques le yoga et que tu connais donc pas mal de postures de yoga, laquelle est-ce que tu serais?
Eh bien, spontanément, je pense à la posture qu'on appelle la posture du guerrier 2. Il y a plusieurs postures de guerrier. Donc, en yoga, on l'appelle le Virabhadrasana. Je ne sais pas si je prononce bien,
Tout
mais.
à fait, tout à fait, c'est
Voilà.
ça.
Bon. Et en fait, Vipradrasana vient de plusieurs mots accolés les uns aux autres. Donc, il y a le mot vira qui signifie celui qui est courageux, badra celui qui est chanceux, et asana, eh ben, c'est toutes les postures du yoga et c'est aussi le siège où l'on est assis. Donc, ça montre l'équilibre de la posture. Et cette position, qui est une position debout en fente, on va dire, avec les jambes un peu en fente et avec les bras étirés, ça renforce la stabilité générale du corps tout en améliorant la mobilité et la souplesse au niveau de l'aine et des hanches. Et un de mes points faibles, justement, c'est la mobilité des hanches. Donc, j'aime beaucoup cette posture qui a l'air facile quand on la voit, mais quand on la
C'est
fait.
vrai.
Quand on la tient un certain temps, qui demande vraiment de la concentration et de l'endurance. Voilà. Donc,
Ouais,
derrière
et
tout ce
c'est
qui est
vrai.
facile, finalement, se cache quelque chose de plus difficile. Voilà. sous les
Oui, tout
apparences.
à fait. Et c'est vrai que ça arrive, on peut avoir des courbatures, hein, notamment dans des séances où on a pas mal travaillé le guerrier 2, on peut avoir hein, des courbatures. Moi, j'ai des élèves qui parfois me disent, oh là là, j'ai eu des courbatures. Donc,
C'est
en
vrai.
effet, hein, on travaille aussi l'endurance.
C'est vrai.
Et alors, on va venir maintenant sur ta casquette, enfin, vers ta casquette de naturopathe. On va commencer en abordant de manière large cette activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la naturopathie? Et c'est un mot qu'on voit beaucoup passer, mais qui reste parfois assez flou. Et en particulier, en quoi ce type d'accompagnement peut être intéressant pour des personnes actives, donc comme des sportifs ou des personnes, par exemple, qui pratiquent le yoga dynamique?
Alors, la naturopathie, c'est très à la mode depuis, on dirait, une dizaine, une quinzaine d'années. On entendait peu parler avant, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis, je dirais, depuis toujours de façon empirique. Et puis, il y a eu quelques grands naturopathes de l'école des hygiénistes qui ont commencé au 19e siècle, quand on commençait à s'intéresser aux maladies, aux microbes et à voir comment pouvoir garder le corps en bonne santé sans passer par les médicaments. Et en fait, la naturopathie, il y a plusieurs significations, mais pour moi, la plus jolie signification, c'est celle qui veut dire le chemin de la nature, en sachant que path en anglais veut dire le chemin. Donc, le chemin de la nature, et c'est une approche de santé et de bien-être qui se base sur des méthodes naturelles et dont le but est de préserver notre capital santé, d'une part, soit de le renforcer. Donc soit de le conserver ou de le renforcer quand celui-ci commence à donner des signes de faiblesse, soit pendant des périodes de stress, soit avec l'âge, soit suite à une maladie, comment se rétablir au mieux. Donc la naturopathie s'adresse à tout le monde, hein, des plus jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées, et c'est un excellent complément à la médecine conventionnelle.
Alors
Donc
justement, je me permets de t'arrêter 2 secondes. On est d'accord que on va pas soigner absolument toutes les pathologies avec de la naturopathie. On peut à la fois consulter un naturopathe et aller voir un médecin conventionnel pour des choses qui peut-être vont être plus compliquées à soigner. Voilà, c'est pas quelque chose parce que parfois on va comment dire opposer naturopathie et médecine conventionnelle et c'est quelque chose que enfin moi je trouve un peu dommage.
Exactement. Certaines personnes ont tendance à le faire, ou certains courants de pensée, mais en ce qui me concerne, non, je trouve que c'est vraiment la médecine et la naturopathie auraient tout à gagner à marcher main dans la main. Parce que sans les découvertes de la médecine, par exemple les antibiotiques, ben là, c'est évident
Ah oui.
que ça sauve des vies et que quand on en a besoin, il ne faut absolument pas hésiter ni attendre à prendre des antibiotiques en cas d'infection, parce qu'une infection peut aller très très rapidement. Donc, c'est une découverte majeure au niveau médical. Cependant, pour certaines maladies, je dirais, enfin, ou troubles de santé chroniques, j'entends par troubles chroniques tous les problèmes digestifs, essentiellement les problèmes digestifs, les problèmes de peau, les problèmes de sommeil, les problèmes à tendance nerveuse, les dérives alimentaires, comme boulimie, anorexie. Bon, là, il faut quand même des spécialistes. Je m'aventurerai pas à soigner un anorexique, je ne suis pas assez compétente. Et là, il y a des personnes vraiment spécialisées pour ça. Mais bon, les troubles alimentaires mineurs, on va dire, prise de poids, compulsion alimentaire, là, la naturopathie peut faire énormément de choses de façon relativement simple. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un réel complément à la médecine où on va très rapidement donner des médicaments sans prendre en compte la personne dans sa globalité. On va juste regarder, ah, il a mal au ventre, on regarde que le ventre. Alors peut-être que ça a tendance à changer un petit peu maintenant, mais quand même, en médecine, il y a le spécialiste pour telle ou telle pathologie. Alors qu'un naturopathe va prendre la personne vraiment dans sa globalité, à savoir le corps, mais aussi les émotions et le mental. Voilà, c'est les trois grandes choses. Et même parfois spirituel, parce qu'on peut avoir des croyances. Des croyances comme, voilà, on ne fait pas de prise de sang, on ne se fait pas vacciner. Voilà, c'est à respecter totalement, mais c'est à prendre en compte aussi dans la santé de la personne.
OK.
Et donc voilà, pour résumer, la naturopathie se base sur trois grands axes. Donc l'alimentation qui est équilibrée, à la fois nutritive et adaptée à l'état de la personne. Parce que chaque personne est unique et et ses besoins sont individuels. Donc en fonction de la saison, de son état de santé, on va plutôt préconiser telle ou telle alimentation. Une chose très importante en naturopathie, c'est tout ce qui est élimination et auto-guérison. Donc, le corps a des mécanismes d'élimination qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire des filtres comme le foie, les reins, qui servent naturellement à filtrer toutes nos toxines. Bon, il y a de multiples fonctions, mais voilà, pour l'élimination, c'est le filtrage des toxines. Et donc, stimuler ces organes d'élimination va aussi aider le corps à se débarrasser plus rapidement de ces toxines et donc à être en meilleure santé. Et ça, c'est on va utiliser des plantes, des huiles essentielles, mais aussi l'activité physique qui est très importante, qui va stimuler l'oxygénation et la vitalité. Donc, j'ai parlé de l'alimentation, stimuler les mécanismes d'élimination et en parallèle d'auto-guérison. Et le troisième élément que l'on prend en compte, c'est l'équilibre émotionnel et mental, qui va être, lui, favorisé par un bon sommeil, des exercices de relaxation, de respiration et aussi les massages. Voilà, ça, c'est les trois grands piliers de la naturopathie. Et donc, l'approche naturopathique, pour répondre à ta deuxième question, est bien sûr naturellement intéressante pour les personnes qui pratiquent un sport et aussi du yoga dynamique. Donc, une alimentation alimentaire, pardon, au niveau alimentaire, une alimentation ciblée va aider à optimiser les performances en proposant des aliments nutritifs et digestes pour une énergie qui soit à la fois importante, mais durable tout au long de l'effort. Et donc, avec essentiellement un bon équilibre protéines, glucides et graisses, selon l'effort demandé, selon la durée de l'entraînement, et aussi qui servira à retrouver ou à garder son poids de forme. L'alimentation, c'est vraiment un pilier au niveau de l'énergie des sportifs. Quand je parle du poids de forme, c'est bien sûr le poids où le corps se sent bien, naturellement, qui varie d'une personne à l'autre, et où
Ouais,
naturellement.
merci de le préciser. C'est important de le préciser parce que quand on parle de poids, parfois on peut imaginer que c'est par rapport à des critères esthétiques qui nous sont dictés de l'extérieur, mais ce n'est pas le cas, hein. On est d'accord, on parle de poids de forme.
Oui. Bien sûr qu'il y a un indice de poids statistique où il faut être plutôt entre 20 et 25 pour ne pas être ni obèse ni maigre. Donc il vaut mieux être dans cette. Mais donc 20-25, c'est quand même assez large au niveau du poids. Il y a bien une dizaine de kilos de différence. Donc on peut être en très bonne santé. Pour 1m70, par exemple, eh bien, je pense que ça doit être en gros, hein, entre 58 et 68 kilos. C'est considéré comme normal. Et pour certaines personnes, 1m70, 68 kilos, non, 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 elles se sentent beaucoup trop grosses. Alors qu'il y a certaines constitutions, très musculeuses, avec une forte ossature, où eh ben, le poids de forme, c'est 68 kilos. Et si on veut maigrir, on va peut-être y arriver, mais naturellement, le corps aura tendance à revenir petit à petit à son poids de forme, parce que c'est là où il va se sentir dans la meilleure énergie. Et on peut remarquer quand on a perdu 3 kilos, peut-être que oui, on rentre dans une taille en moins de pantalon, mais on se sent plus vite fatigué, énervé. C'est un élément à prendre en compte, le poids de forme. Même s'il ne correspond pas obligatoirement au standard de la mode actuelle. Qui d'ailleurs a tendance à ne plus. Voilà, dans les années 70, la mode, c'était les mannequins filiformes. Heureusement, ça change un peu maintenant. Et puis pour en revenir aux sportifs, donc qui parfois, eh bien oui, soit en faisant trop d'efforts, on peuvent se blesser, se faire des élongations musculaires, par exemple. Eh bien, il y a des huiles essentielles à visée inflammatoire, comme je veux dire, la Gaultérie ou l'eucalyptus citronné, qui sont très efficaces voilà, pour tout ce qui est musculaire. Et puis en soutien de la récupération, il y a des prises de compléments alimentaires qui peuvent être conseillées, comme le magnésium, par exemple, pour éviter les crampes et la fatigue. Donc la naturopathie est tout à fait indiquée pour Pour les sportifs ou pour les personnes qui font du yoga. Et là, ben, je vais encore en profiter pour parler des massages. Parce
Oui, c'est ce que j'allais te demander,
que.
l'axe massage, j'imagine que c'est intéressant
Voilà.
aussi.
Exactement. Les massages, ben, sont déjà, les massages sportifs sont une pratique courante pour les sportifs professionnels. Parce qu'ils font, ben, ils participent à la détente physique et nerveuse. Et à la récupération en général. Donc, outre le massage sportif, le massage en général est un réel bien-être pour le corps, parce que comme je l'évoquais là en introduction, la vocation première du massage est de soigner par le toucher. Et la première fonction du toucher, c'est de rassurer. Donc, un enfant qui pleure, un bébé qui pleure dans son lit, dès qu'on le prend dans les bras, ben voilà, il va se calmer très rapidement parce qu'il va se sentir en sécurité. Il est touché par les bras, ben, généralement de sa mère, mais de toute autre personne qui s'occupe de lui. Le toucher, c'est vraiment un lien archaïque. C'est le premier sens en éveil dès notre naissance et celui qui va nous permettre de nous sentir reliés au monde. Donc, adulte, on garde cette sensation de toucher, et jusqu'à la fin de notre vie, une personne très âgée, même sur son lit de mort, qu'on lui tienne la main, ça va être un réconfort énorme. Et pour parler personnellement d'une petite anecdote, lors de mon accouchement, je me rappelle que la sage-femme était à côté de moi et me tenait la main. Et c'était quelque chose c'est ce qui m'a le plus, en fait, fait du bien. Tout au long de ce travail assez difficile malgré tout, de se sentir soutenu et de sentir la main de quelqu'un bienveillant à côté de soi, ça procure un réel bien-être. Donc,
Oui, c'est vrai. C'est expliqué aussi hein, par la science, on en a parlé notamment par la libération d'ocytocine. Mais en effet, on peut, je pense qu'on l'a tous ressenti hein, déjà.
Donc, on a tous expérimenté, d'une façon ou d'une autre, le bienfait du toucher. Comme je disais, un toucher bienveillant, même adulte ou même arrivé au terme de sa vie, provoque une grande relaxation et apaise le système nerveux, et surtout dans cet espace de temps privilégié qu'est une séance de massage. Pratiquer régulièrement le massage améliore en règle générale notre santé et notre bien-être parce qu'il apaise ou stimule notre corps, selon le massage proposé. Et il aide à évacuer le stress, à récupérer son calme, améliorer son sommeil, retrouver aussi son énergie, et même sa confiance et son estime de soi. C'est donc plein de bienfaits auxquels on ne pense pas obligatoirement quand on va à une séance de massage, mais qui ne sont pas négligeables. Voilà pour en résumé tout ce qui concerne la palette donc des méthodes naturelles que propose la naturopathie, donc qui est assez vaste et assez nuancée en fonction de l'état et des besoins de la personne, même aussi de ses habitudes, de ses rythmes de vie, qui peut être aussi adapté au fil des saisons, et aussi des changements de cycle pour les femmes.
Ok, bah écoute, merci pour toutes ces informations. On va à présent faire le focus sur quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. C'est la consommation de sucre dans nos sociétés. Alors, c'est pas un scoop, mais le sucre, hein, il est très présent dans notre alimentation moderne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette consommation de sucre, alors le sucre tel qu'on le connaît, mais peut-être aussi les sucres cachés?
Alors oui, le sucre, vaste sujet. Donc, le sucre fait partie des glucides, de la famille des glucides. Hein, pour rappel, donc, il y a des protéines, ce qui est viande, poisson, œufs, les glucides, dont je vais parler, et les lipides. Les lipides, c'est toutes les graisses. Donc, les lipides font partie de l'alimentation normale de l'être humain et ils représentent environ 50% de la ration alimentaire.
Tu parles des glucides là, on est
Là,
d'accord,
je
hein?
parle des
Les
glucides.
glucides. Très
Voilà.
bien. Voilà.
Tout à fait. Les glucides, donc qu'est-ce que c'est? Bon, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, on les trouve dans les fruits et les légumes, les céréales, comme le blé ou le riz, dans les farineux, comme les pommes de terre ou les châtaignes, les patates douces, dans les légumineuses, donc ce qu'on appelle légumineuses, c'est tout ce qui est légumes secs. Les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, haricots rouges, haricots blancs. Voilà. Tout ça, ce sont des glucides naturels qui contiennent plein de vitamines et de minéraux intéressants et dont la digestion met un certain temps parce qu'ils contiennent tous des fibres. Ces fibres qui se gonflent d'eau et donc qui ralentissent, qui aident au transit, mais qui ralentissent la digestion et donc contribuent à une énergie sur la durée. Par contre, le sucre, qui lui aussi est un glucide, mais le sucre tel qu'on le connaît, donc ce petit cube blanc et sucré que l'on met dans le café ou la poudre que l'on rajoute dans les yaourts ou sur les crêpes, lui, un glucide simple, pur et raffiné, qu'on ne trouve pas à l'état naturel. Et de par son raffinage, il ne contient plus aucun minéraux. Donc, à part le plaisir du goût sucré, qui n'est pas négligeable, mais bon, à part ce plaisir du goût sucré, il n'apporte aucune valeur ajoutée à l'organisme en manière de minéraux, en matière de minéraux et de vitamines. Et si le sucre était encore rare au début du 19e siècle, on le trouve désormais à peu près dans tous les produits de l'industrie agroalimentaire. On va le retrouver dans les biscuits, les viennoiseries, les confitures, les gâteaux, le chocolat, les céréales du petit-déjeuner, les glaces, les sodas, mais aussi dans les aliments non sucrés gustativement et où l'on ne penserait jamais en trouver, comme dans les soupes ou les sauces industrielles, voire même les charcuteries. C'est ce qu'on appelle effectivement, comme tu l'as évoqué, les sucres cachés, parce qu'ils se glissent partout, mais sans qu'on puisse les voir vraiment. Et là où ça devient encore plus compliqué, c'est que le sucre se cache aussi sous une foule de noms et de molécules plutôt abstraites pour les non-initiés. Donc, quand on lit les étiquettes sur un paquet de biscuits, par exemple, ou une boîte de soupe, on va trouver des mots comme sirop de maïs, sirop de glucose fructose, dextrose, saccharose, un tas de noms qui se terminent en ose.
Ouais.
Et tout ça, en fait, c'est du sucre industriel, du sucre raffiné déguisé. Faut savoir que la consommation de sucre est passée de 4 kilos par personne et par an au milieu du 19e siècle à plus de 25 kilos par personne et par an de nos jours, en France. Aux États-Unis, je pense que c'est encore plus. Donc l'augmentation est considérable et a un impact non négligeable sur la santé, parce que donc depuis des millénaires, l'être humain, enfin le corps humain, voilà, devait digérer bien sûr des glucides, mais pas du tout de sucre raffiné jusqu'au 19e siècle, et peu de sucre raffiné tout au cours du 19e. Et là, d'un coup, au 20e et début 21e, voilà, c'est vraiment
Parce que là,
une.
tu parles de sucre raffiné, hein, justement, quand
Oui,
tu
là,
donnes
je
ces noms-là,
parle de sucre
tu parles de
raffiné,
sucre
hein.
raffiné. Tout à
Oui,
fait. Très bien.
et effectivement,
OK.
quand on évoque le mot sucre, c'est à celui-là que les gens pensent.
Ouais.
Peut-être aux fruits aussi, mais ils ne vont pas penser aux légumes. Voilà, c'est certain.
Alors, je prends mon rôle d'ancien professeur de SVT. On imagine que je n'ai pas très sérieusement suivi tout le cursus et je vais donc te poser une question naïve. Le sucre, c'est de l'énergie, c'est bien, non? Surtout pour des personnes actives qui font du sport, par exemple. Donc, en gros, cette consommation importante, est-ce que c'est vraiment un problème? Comment je me sens si je consomme trop de sucre? Et voilà, la première partie de cette interview est terminée. La réponse à cette question, la semaine prochaine, puisque je le rappelle, l'épisode suivant ne paraîtra pas dans 15 jours, mais bien dans une semaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous attends avec impatience pour la suite de l'interview. Ciao, ciao!